Vous le savez, pendant ce temps de l'Avent, ce n'est pas tant à partir de l'Évangile qu'est construit, j'allais dire, la liturgie de la parole. Vous le savez souvent que, en temps ordinaire, il y a un parallèle entre la première lecture et l'Évangile. Et donc c'est l'Évangile qui commande et la première lecture et résonne par rapport à l'Évangile. Là, ce n'est pas pareil. Pendant tout le temps de l'Avent, c'est le livre d'Isaïe. Et vous savez, donc, le livre d'Isaïe qui annonce donc les parties messianiques du livre d'Isaïe qui vont guider notre méditation jusqu'au moment de la nativité. Et dans ce livre d'Isaïe que nous avons aujourd'hui, c'est la perspective, d'une certaine manière, d'un paradis terrestre. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau, le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra, il n'y aura plus de mal. Alors, quand Jean-Baptiste était en prison, il connaissait bien sûr ce passage d'Ésaïe, et Jean-Baptiste est un prophète de l'Ancien Testament, on peut le dire, même s'il est à charnière entre l'Ancien et le Nouveau. Il s'étonne parce qu'il s'attendait justement que Jésus vienne éradiquer le mal, vienne enlever le mal. Comme lui, voilà, il l'avait annoncé dans sa prophétie, voici que celui qui vient derrière moi, c'est-à-dire le Christ, il tient dans sa main la pelle à vanner pour battre le blé et jeter les pailles dans le feu qui ne s'éteint pas. Voici que la cognée est à la racine des arbres, les arbres qui ne portent pas du fruit, on les enlève, on éradique le mal. C'est la prophétie de l'Ancien Testament. Et c'est là où on voit que Jean-Baptiste est vraiment de l'Ancien Testament. Et pendant qu'il était en prison, Jean-Baptiste a eu des doutes. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? Est-ce que tu viens rétablir le paradis terrestre ? Parce que j'entends, quand j'ai lu Isaïe, j'entends, il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de mal sur cette terre. Les exemples sont tirés de la nature. Et or, ce n'est pas ce que dit Jésus dans sa prédication. C'est une prédication de l'Ancien Testament. Et Jean-Baptiste, et la réponse de Jésus n'a pas été du livre d'Isaïe, de ce passage-là, mais il a dit « les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ». Ce n'est pas une éradication du mal que Jésus est venu annoncer et faire advenir dans notre... Ce qui veut dire que, par exemple, beaucoup de Juifs, les Juifs nous reprochent, nous disent « Mais si Jésus est vraiment le Messie, mais pourquoi il y a encore de la souffrance ?» Parce que nous, notre Messie à nous, il n'y aura plus de souffrance. C'est ça la caractéristique de notre Messie, nous Juifs. On l'attend encore, mais le vôtre, je suis désolé, il n'est pas à la hauteur. C'est pas ça. Regardez, Isaïe disait « Il n'y aura plus de mal. » Et ouvrez les journées, écoutez la télévision, voilà, on ne voit que ça. Renoncer au paradis terrestre. Je trouve que c'est peut-être, pendant ce temps de l'Avent, une piste de méditation, une piste de travail. Renoncer à un monde sans la présence du mal. Parce que si Jésus vient annoncer un paradis, comme il l'annonce au bon Larron, ce n'est pas dans cette terre qu'il se trouve. C'est les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ce n'est pas un paradis terrestre que Jésus vient annoncer. Et plus encore, nous nous méfions de ceux qui pourraient annoncer un paradis terrestre. Toutes les grandes idéologies ont annoncé un paradis terrestre. C'était la race pure. C'était l'application du marxisme. Voilà, et tout le monde va partager, on va être tous égaux, il n'y aura plus de mal. Et puis on sait ce que ça a donné, des bains de sang. Et pour nous, c'est un renoncement parfois difficile de dire, ben, au fond, quelle est la nouveauté que Jésus apporte? Quelle est la conséquence de ce baptême dans l'Esprit Saint et dans le feu? C'est précisément avoir, comme baptisé, cette expérience de la présence de Dieu, cette présence de Dieu au plus intime. Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, qui nous fait découvrir par son Esprit Saint son œuvre, mais qui nous fait aussi accueillir la souffrance, la limite, comme une réalité de notre monde. Et vous allez voir tout de suite après Noël, c'est très très marquant. Vous avez la nativité le 25, le 26, Saint-Étienne, le martyr. Et puis tout de suite après, le 28 décembre, les saints innocents. Donc on voit bien que Jésus n'est pas venu abolir sur cette terre le mal. Ça c'est très clair, c'est pas du tout comme... Et on comprend les doutes de Jean-Baptiste dans sa prison. Et les doutes aussi de... Jean-Baptiste faisait partie certainement de ce qu'on appelle les Esséniens. Les Esséniens c'est un peu des extrémistes. Les Esséniens, ceux qui ont été en Terre Sainte, vous allez peut-être vous rappeler peut-être de Massada. Massada en Terre Sainte, hein, là où l'armée romaine a construit un remblai immense pour, comme ils ne pouvaient pas monter sur la montagne, c'était une hauteur, ils disent, mais on va remblayer 40 mètres, 50 mètres de haut, ou plus, 100 mètres, je ne sais pas combien c'était, et on va remblayer. Donc pendant et du coup, on va monter comme ça, et ils ont eu Massada. Et bien, les Esséniens, ce sont ceux qui se sont suicidés à Massada. Ils ne voulaient pas se rendre. Donc il y a un côté excessif dans Jean-Baptiste, qui a besoin aussi d'être, d'une certaine manière, évangélisé. La prédication du Seigneur le déroute, parce qu'il s'attendait à un Messie politique. Comme les Juifs encore s'attendent à un Messie politique. Et donc, nous, notre Messie n'est pas politique. Notre Messie, il n'est pas politique, il n'est pas celui qui va éradiquer le mal, et tous ceux qui se sont plus ou moins donnés ce rôle-là d'éradiquer le mal ont causé encore plus de souffrance. Non, nous croyons que la réalité de ce monde est marquée par le péché et les conséquences du péché originel, mais que nous pouvons rendre le monde un peu plus lumineux par les actes que nous faisons. Nous pouvons le rendre plus fraternel. Pas parfait, mais juste plus lumineux, plus fraternel, et c'est tout cette démarche de ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu, qui, par des actes concrets, vont permettre à ce que le Saint-Esprit vienne dans le cœur des hommes. Nous croyons ça. C'est-à-dire, nous croyons en certaines modestie dans la réconciliation entre les hommes. Nous pensons que la réconciliation parfaite n'existe pas. Et que tant que nous serons ce que nous serons, eh bien, on voit bien que les tensions existent. Et Noël n'est pas une fête facile. Noël n'est pas une fête facile au plan familial. Parce qu'évidemment, ça réveille toutes les difficultés, que dire, des familles séparées, ou des inimitiés à l'intérieur des familles, ou des gens qui ne se sentent pas accueillis, etc. Ça réveille, c'est une fête qui n'est pas si simple. Mais justement, nous voulons vivre Noël comme un lieu où nous demandons au Seigneur d'avoir un autre regard. Un autre regard. Oui, nous savons que cette terre, jusqu'à ce que le Christ vienne juger les vivants et les morts, comme nous allons le professer dans un instant dans le credo, sera marquée par le péché, la souffrance, la mort, l'injustice. Mais la nativité du Seigneur et cette préparation à la nativité nous fait découvrir dans ce mystère du mal, eh bien que le Seigneur lui-même l'a pris dès sa naissance sur ses épaules. Dès sa naissance, le mystère du mal, Saint-Étienne, les saints innocents, le martyr des saints innocents, etc. Et tant de martyrs, tant de martyrs. Donc on voit que la nativité est tout de suite, dans la liturgie, associée à la croix. comme pour nous dire, pour naître de nouveau, parce que Noël c'est une naissance, mais pour naître de nouveau, pour avoir un autre regard, c'est l'Esprit du Seigneur qui nous permet de découvrir dans nos réalités marquées par la fragilité, par les blessures, nous permet de découvrir sa présence. Donc c'est autre chose que nous annonçons au monde. C'est autre chose. C'est pas un monde sans mal. On demande à chaque notre Père, délivre-nous du mal, certainement, mais on le demande à chaque notre Père. Alors on va demander cette grâce particulière au Seigneur d'être assez confiant, parce que ça demande une confiance, d'affronter l'injustice, d'affronter, de vivre dans un monde, on aimerait tellement vivre dans un autre monde, dans ce monde que décrit le prophète Isaïe, où l'enfant joue sur le nid du cobra, où la vache et l'ours ont même pâturage. On aimerait ce monde-là, on y aspire, mais en attendant, nous avons cette certitude que chaque fois que nous posons un acte d'amour, il retentit dans l'éternité. Il rend ce monde plus lumineux. Alors, nous ne nous plaignons pas de ce monde. Nous savons que nous avons aussi notre part dans le développement de l'injustice. Nous avons aussi notre part. Petite peut-être, mais notre part elle est là. Mais j'aime beaucoup cette phrase de saint Augustin qui dit « Soyez saints et les temps seront saints. Soyez bons et les temps seront bons. » Amen.